Deux lectures ce matin, la première dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les quatre premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Voilà pour cette première lecture. La seconde dans l'Évangile selon Marc, l'Évangile du jour, nous amène au chapitre 8, les versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et il leur proposa en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous ?» leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan !» car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Ce dimanche, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit penser... Il doit porter sa croix et me suivre. » Il parle là du sens de la vie, ou de la vie telle qu'un chrétien devrait la comprendre, la vivre et la partager. Et on peut imaginer que ces paroles dépassent même le cadre limité des chrétiens, puisqu'au-delà des disciples, au verset 34, c'est la foule que Jésus interpelle ici. Pourtant, à l'entendre comme ça, cet enseignement de Jésus ferait a priori fuir les plus braves d'entre nous. Renoncer à nous-mêmes, prendre sa croix. Alors essayons de voir ensemble ce que ces paroles de Jésus ont pu signifier pour ceux qui les ont reçues, pour les premiers lecteurs de Marc d'abord, et quelques 20 siècles plus tard, ce qu'elles peuvent signifier pour nous, ici à Londres. En quoi ces versets qui parlent de mort parlent-ils du sens de la vie? Auparavant, juste un mot peut-être sur les quelques versets de l'Ancien Testament que nous avons lus. Vous avez sans doute reconnu les paroles d'introduction de la loi de Moïse, les fameux 10 commandements. « Je suis l'Éternel, ton Dieu libérateur, qui te libère de l'esclavage, qui te libère de la servitude. » Voilà comment Dieu se présente à Moïse et au peuple. Un Dieu qui libère. Et il ajoute tout de suite après, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si le Dieu que j'écoute n'est pas un Dieu qui me libère, c'est que ce n'est pas Dieu, mais un Dieu que je me suis forgé, une idole. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il ajoute juste après, « Tu ne te feras pas d'image ou de représentation. » Je suis le Dieu libérateur, je ne fais que donner la liberté, toute autre manière de me comprendre est fausse. Voilà pour ces versets, c'est dit. Maintenant, revenons à notre passage où Jésus de Nazareth, porte-parole de ce Dieu qui libère, de ce Dieu libérateur, interpelle la foule et parle du sens que revêt le fait de le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, pourquoi venait-on à Jésus ? Pourquoi les foules le suivaient-elles ? Pourquoi les disciples ont-ils tout laissé pour le suivre ? Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Pour écouter son enseignement, pour faire reposer nos vies sur sa parole, sur ses idées, sur ses conseils. On le suit pour l'écouter, parce qu'il est l'incarnation de la pensée, de la parole de ce Dieu libérateur. Le suivre, c'est l'écouter. Et faire de ces paroles le socle, le principe, l'inspiration de nos vies. Et Jésus dit que pour le suivre, donc, pour l'entendre, il faut renoncer à soi, porter sa croix. Porter sa croix, alors voilà une expression bien familière pour nous, elle est même devenue populaire, tout le monde dit ça, enfin, tout le monde l'utilise même hors de tout contexte religieux. Et vous vous en doutez, son sens premier s'est modifié au cours des siècles. Il a évolué, il a changé, son sens original s'est atténué au fil du temps, pour ne pas dire qu'il a même carrément changé de sens. Porter sa croix, c'est de nos jours supporter avec plus ou moins de philosophie et de patience les petits ennuis de la vie, les tracas, les contrariétés, les mesquineries. Chacun porte sa croix avec plus ou moins de force, plus ou moins de patience, plus ou moins de bonheur. On devine que l'expression a bien vieilli et qu'elle a perdu petit à petit son sens originel beaucoup plus fort. Parce que pour rappel, cette expression il y a 2000 ans, au temps de l'Empire romain et des persécutions, signifiait que, à tous que le supplice de la croix était réservé à ceux qui, condamnés, n'avaient plus de conditions humaines, plus d'existence légale, plus de personnalité juridique, et que tout ce qui leur restait allait leur être supprimé, la vie. Et ceci dans des conditions vraiment atroces. Pour rappel aussi, le condamné était pendu par les bras à un poteau, et tout le poids de son corps reposait sur son thorax. Et petit à petit, il mourait étouffé. Jésus est mort étouffé. Il n'est pas mort des clous dans ses mains, ni de quoi que ce soit d'autre. Ni de faim, ni de soif, il est mort étouffé. Alors imaginez le supplice qui pouvait durer comme ça des heures, voire des jours, selon la constitution du supplicié. C'était horrible. Porter sa croix, ce n'était donc pas, à l'époque, accepté avec plus ou moins de philosophie les petits tracas de la vie courante, mais c'était marcher vers le supplice et vers la mort. Et en plus, cette mort était considérée comme infamante. Pour les gens de la bonne société de l'époque, on ne souhaitait à personne de mourir sur la croix. Il y avait une malédiction qui était attachée à ça. On peut lire dans le livre du Deutéronome ou dans Galates, « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Et au moment où Marc écrit, et pendant les temps des persécutions romaines qui ont suivi, on comprend donc bien que prendre et porter sa croix résonnait de manière très particulière. C'était la mort annoncée de ceux qui suivaient le Christ, de ceux qui l'écoutaient. Un synonyme, finalement, d'avancer vers la mort. Alors le contexte a bien changé, en tout cas pour nous, en Occident, on ne meurt plus de suivre ou d'écouter le Christ, et c'est une bonne chose. Mais alors du coup, que veut dire cette parole pour nous aujourd'hui, chrétiens, à Londres ? Renoncer à soi-même et porter sa croix. Oui, comment comprendre pour nous ce conseil ? Tout en gardant la force de l'expression évangélique, toute sa rigueur, tout son caractère étonnant, sinon scandaleux. Eh bien, c'est peut-être là qu'il faut se souvenir de ce qui précède les trois mots de l'expression « porter sa croix ». Le Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes, ou suivant les traductions, de ne plus penser à soi seulement. On comprend donc que suivre Jésus, c'est consentir à mourir à soi-même. Alors ce n'est pas de s'annihiler ou de s'oublier, mais c'est plutôt de renoncer à être le centre de toute notre existence Et il a dit ça, en fait, pour nous décentrer de nous-mêmes. Alors ça peut nous paraître impossible, comme ça, a priori, il y a une super résistance en nous à ne plus être le centre de tout et de toute notre vie, et c'est pourtant une expérience qu'on a tous plus ou moins connue, qu'on a tous plus ou moins vécue, peut-être à un moment donné de notre existence, par exemple quand on devient parent. On accepte, de plus ou moins bon cœur, de renoncer à notre moi pour laisser toute la place à ce petit être qui vient de débouler dans notre vie. Et cette phase peut durer quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années. Ça peut durer même toute une vie, si tant est que l'enfant peut être touché par un handicap quelconque et profond. C'est alors tout l'être qui est impliqué là-dedans, et c'est tout l'ego, tout le moi parental qui disparaît dans cette relation. Et on pourrait penser à bien d'autres vocations encore, à ces médecins, ces infirmières, ces militaires, ces religieuses ou ces religieux, un peu partout, ici ou là, sur notre planète, dont la vie fait sens au service de l'autre, qui risquent même souvent littéralement leur vie au service du prochain. Alors c'est peut-être là le message de Jésus à recevoir. Je vous le traduis. Sans même parler de ces extrêmes, on n'est pas des Mères Teresa, on n'est pas tous des abbés Pierre, on est d'accord. Si tu veux vivre une vie pleine de sens, là où tu es, il te faut aussi renoncer à toi-même. Renoncer à te mettre au centre du monde et de l'univers. Parce que, désolé de t'ouvrir les yeux de manière aussi brutale, mais tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre de l'univers. En revanche, dans ce monde, celui ou celle que tu as le plus de chance éventuellement de pouvoir changer en profondeur, d'améliorer, c'est toi. Et donc, pour grandir plus vite et plus efficacement, c'est là le paradoxe, tu dois renoncer à te croire le centre du monde. Tu as besoin de t'alléger de toi-même. C'est pourquoi arrête la comparaison. Arrête la compétition. N'essaye pas d'être toujours meilleur que l'autre, mais acharne-toi à être toujours meilleur que toi-même. Voilà ce qui changera le monde. Alors voilà, moi, comment je comprends et je traduis ces paroles de Jésus pour nous. Je crois que l'Évangile tente en fait de nous alléger, de nous libérer de toute cette pression à être meilleur que l'autre, de lâcher prise avec ça. Et si Jésus nous le suggère, c'est que c'est possible. Alors évidemment, c'est difficile d'accepter de ne pas être le centre, de ne pas être le premier, le meilleur. Cet été, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu aussi, et je ne sais plus dans quelle discipline c'était pendant les Jeux Olympiques, il y avait une jeune athlète comme ça qui avait la médaille d'argent sur le podium et qui était en pleurs, désespérée. Elle n'arrivait pas à se réjouir de cette médaille d'argent parce qu'elle convoitait l'or à côté. Et elle était inconsolable, elle pleurait de toutes ses larmes parce qu'elle n'avait pas été la meilleure. Alors oui, ça peut être cruellement difficile de renoncer à soi-même, de mourir à soi-même. Mais est-ce que ce n'est pas là un conseil de Jésus pour libérer en nous un peu d'humanité? Toujours cet été, il y avait un journaliste qui rapportait une anecdote qui s'est passée en 1924, pendant les Jeux Olympiques de cette année-là. Les deux meilleurs coureurs de la course, de demi-fond, en gros 10 km, ils devaient obtenir logiquement une médaille, ces deux-là, parce que l'un ou l'autre, mais les deux devaient en obtenir une en tout cas, et ils étaient loin devant, et au bout d'un moment, il y en avait un qui a pris un peu l'avantage, qui est parti devant, et celui qui est parti devant, à un moment donné, trébuche et tombe, de manière assez lourde et difficile. Et celui qui arrivait derrière, du coup, ne sachant pas trop, il s'est arrêté, il l'a relevé, ils sont repartis tous les deux aussi vite, quoi, et vers la ligne d'arrivée. Et au moment d'arriver sur la ligne, celui qui était tombé reste en arrière, se retire et laisse la place. Il s'efface parce que ça lui paraissait normal, a-t-il expliqué après, de laisser la place à l'autre et de laisser franchir la ligne le premier. Mais voilà que celui qui a franchi la ligne en premier, lui, refuse la médaille en disant « Mais s'il n'était pas tombé, c'est certainement lui qui aurait gagné. Il avait déjà une avance et c'est lui qui aurait gagné. » Et finalement, devant un tel esprit digne de la devise olympique qui, pour rappel, est l'essentiel n'est pas de gagner mais de participer, le jury a classé les deux coureurs à égalité. Et le journaliste qui racontait ça ne disait pas si ces coureurs étaient chrétiens ou s'ils étaient disciples du Christ ou quoi que ce soit. Mais même si c'est dans un domaine seulement profane, cet exemple, en tout cas, peut nous suggérer et nous donner l'intuition de ce que peut être un renoncement à soi-même, et un renoncement qui coûte. On comprend combien c'est difficile, mais c'est possible. Alors je prends bien sûr avec les sportifs un exemple un peu biaisé, parce que c'est le sens même de la compétition que d'être meilleur que l'autre, mais nous tous, sportifs ou pas, nous commençons très tôt dans notre système scolaire et plus tard dans nos concours, nos recherches d'emploi, dans toute notre vie, à intégrer cette idée de notes, de comparaison, de compétition. Et même quand nous n'en sommes plus vraiment conscients, nous avançons dans un monde avec notre moi au centre. Nous sommes tellement encombrés de nos petites personnes que nous ne renonçons pas volontiers à être plus que l'autre. Jésus veut juste nous décentrer de nous-mêmes pour pouvoir mieux l'entendre et, comme lui, servir beaucoup plus efficacement le prochain. Et pour nous y aider et nous rendre libres de nous-mêmes, c'est peut-être la raison pour laquelle l'image de la mort fait partie du conseil. Accepter de mourir à soi-même, eh bien, c'est déjà accepter nos limites, c'est devenir conscient et nous rappeler de nos propres fragilités, de notre propre finitude, d'humain d'abord, et puis de notre propre finitude personnelle aussi. C'est une invitation, en fait, à l'humilité. Et puis, renoncer à soi-même, c'est peut-être enfin renoncer à ce qu'il y a de moins bon en nous, et dont nous avons du mal, souvent, à nous dégager. Nos rancœurs, nos susceptibilités, nos amertumes, nos dépressions, nos jalousies, que sais-je, et tout ce qui peut affaiblir ou assombrir nos cœurs, nos pensées, nos relations, nos actions et, en bout de course, finalement, notre destinée. C'est pourquoi, loin du temps des crucifixions et des jeux du cirque, 2000 ans plus tard, entendre cette parole de Jésus comme une leçon de vie pour nous est quelque chose de naturel. En nous rappelant ces trois choses, que Jésus est le représentant, la parole de ce Dieu qui délivre, de ce Dieu qui libère, et de ce Dieu qui veut nous libérer, non seulement de nos ennemis extérieurs, mais aussi et surtout de nos ennemis intérieurs, de ceux qui nous empêchent de devenir ce que nous sommes, de vivre une vraie et libre destinée. Ensuite, en nous rappelant que si mourir à soi-même est difficile, c'est quelque chose de nécessaire et de possible. Le Christ l'a rendu possible, parce qu'il nous a précédés sur le chemin, lui-même a porté sa croix, on va dire, de manière forte, parce qu'il a connu notre condition humaine, parce que son esprit est présent à nos côtés, il saura nous aider encore toute cette année à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à être des témoins de l'Évangile, de cette bonne nouvelle qui construit, qui change, qui améliore le monde, pour en faire toujours un peu plus ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Amen.